ce jour solennel arrivé, tout ce que Rome avait de puissant dans la noblesse, dans le clergé et dans les armes, se rassembla autour de sa sainteté. Charles VIII, de son côté, s'avança vers le Vatican avec une suite splendide de princes, de prélats et de capitaines. Au seuil du palais, il trouva quatre cardinaux qui étaient venus au-devant de lui. Deux se placèrent à ses côtés, les deux autres derrière lui, et tous en cortège suivant immédiatement, ils traversèrent une longue file d'appartements pleins de gardes et de serviteurs, et arrivèrent enfin dans la salle de réception, où le pape était assis sur son trône, ayant derrière lui son fils César Borgia. Arrivé à la porte, le roi de France commença d'accomplir le cérémonial habituel, et étant passé des génuflexions au baisement des pieds, de la main et du front, il se tint debout, tandis que le premier président du Parlement de Paris, faisant à son tour quelques pas, dit à voix haute « Très saint père, voici mon roi, tout disposé à prêter à votre sainteté le serment d'obéissance qu'il lui doit. Mais il est d'usage en France que celui qui offre à son seigneur son vassalage en reçoive en échange les grâces qu'il lui demande. En conséquence, sa majesté, tout en s'engageant de son côté à user vis-à-vis de votre sainteté d'une munificence plus grande encore que votre sainteté n'aura usé vis-à-vis d'elle, vient la supplier instamment de lui accorder trois faveurs. Ces trois faveurs sont d'abord la confirmation des privilèges déjà accordés au roi lui-même, à la reine son épouse et au dauphin son fils, ensuite l'investiture pour lui et ses successeurs du royaume de Naples, enfin, la remise entre ses mains de la personne du sultan Djem, frère de l'empereur des Turcs. À ce discours, le pape demeura un instant stupéfait, car il ne s'attendait pas à ces trois demandes que, de son côté, Charles VIII n'avait faites si publiquement que pour lui ôter tout moyen de les lui refuser. Mais reprenant aussitôt sa présence d'esprit, il répondit au roi qu'il confirmerait volontiers les privilèges accordés à la maison de France par ses prédécesseurs, que, par conséquent, il pouvait considérer cette première demande comme accordée, que, quant à l'investiture du royaume, c'était une affaire à délibérer dans le conseil des cardinaux, mais qu'il ferait auprès d'eux tout son possible pour qu'ils accédassent à ses désirs. Enfin, que, pour ce qui regardait le frère du sultan, il remettait à un temps plus opportun de discuter la chose avec le sacré collège, affirmant que, comme cette remise ne pouvait être qu'utile au bien de la chrétienté, puisqu'elle était demandée dans le but de rendre le succès d'une croisade plus certaine, ce ne serait pas sa faute si, sur ce point encore, le roi n'était point satisfait. Après cette réponse, Charles VIII s'inclina en signe qu'il était content. Et, étant demeuré debout et découvert en face du pape, le premier président reprit la parole en ces termes. « Très saint père, c'est une antique coutume des rois chrétiens, et particulièrement des rois très chrétiens de France, de signifier par le moyen de leurs ambassadeurs le respect qu'ils professent pour le Saint-Siège et les souverains pontifes que la Providence divine y élève. Mais le roi très chrétien, ayant eu le désir de visiter le tombeau des saints apôtres, a voulu, non par ambassadeur, non par délégué, mais par lui-même, payer cette dette religieuse qu'il regarde comme sacrée. C'est pourquoi, très saint père, Sa Majesté le roi de France vous reconnaît pour le véritable vicaire du Christ, pour le légitime successeur des apôtres saint Pierre et saint Paul, et vous promet et jure cette foi filiale et respectueuse que les rois, ses prédécesseurs, sont accoutumés de vous promettre et de vous jurer, se dévouant, lui et toutes ses forces, au service de votre sainteté et aux intérêts du Saint-Siège. Le pape se leva tout joyeux, car ce serment, fait avec tant de publicité, lui ôtait toute crainte d'un concile. Aussi, disposé à accorder, de ce moment, au roi de France tout ce qu'il lui demanderait, il le prit par la main gauche, lui faisant une courte mais amicale réponse et l'appelant le fils aîné de l'Église. La cérémonie terminée, ils sortirent de la salle, le pape tenant toujours le roi par la main, et ils marchèrent ainsi jusqu'à la chambre où l'on dépose les vêtements sacrés. Là, le pape feignit de vouloir reconduire le roi jusqu'à ses appartements, mais le roi, ne le voulant pas souffrir, tous deux se saluèrent de nouveau et se séparèrent pour se retirer chacun chez soi. Le roi resta encore 8 jours au Vatican, puis s'en retourna au palais Saint-Marc. Pendant ces 8 jours, toutes les choses qu'avait demandé Charles VIII furent débattues et réglées à sa satisfaction. L'évêque du Mans fut fait cardinal, l'investiture du royaume de Naples fut promise au vainqueur. Enfin, il fut convenu qu'au moment de partir, le pape, contre une somme de 120 000 livres, remettrait au roi de France le frère de l'empereur de Constantinople. Seulement, voulant pousser jusqu'au bout l'hospitalité qu'il lui avait donnée, le pape invita Jem à dîner pour le jour même où il devait quitter Rome avec son nouveau protecteur. Le moment du départ arrivé, Charles VIII monta à cheval tout armé et se rendit avec une suite brillante et nombreuse au palais du Vatican. Arrivé en face de la porte, il descendit de cheval et, laissant son escorte sur la place Saint-Pierre, il monta avec quelques seigneurs seulement. Il trouva sa sainteté dans la chambre où l'attendait le pape, ayant à sa droite le cardinal Valentin, à sa gauche Jem, qui venait, comme nous l'avons dit, de dîner à sa table, et autour de lui 13 cardinaux. Aussitôt le roi, ayant fléchi le genou, demanda au Saint-Père sa bénédiction et s'inclina pour lui baiser les pieds, mais Alexandre VI ne le voulut point souffrir, le prit dans ses bras et, avec une bouche de père et un cœur d'ennemi, le baisa tendrement au front. Alors le pape présenta au roi de France le fils de Mahomet II, qui était un beau jeune homme, ayant quelque chose de noble et de royal dans l'aspect, et dont le magnifique costume oriental contrastait par son ampleur et sa forme avec l'habit étroit et sévère des chrétiens. Jem s'avança vers Charles VIII sans humilité mais sans hauteur, et comme un fils empereur qui traite avec un roi, lui baisa la main puis l'épaule. Puis, se retournant vers le Saint-Père, il lui dit en langue italienne qu'il parlait très bien, qu'il le priait de le recommander au grand roi qui voulait bien le prendre sous sa protection, assurant le pontife qu'il n'aurait jamais à se repentir de lui avoir rendu sa liberté, et disant à Charles VIII qu'il espérait qu'il aurait à se louer de lui si, après avoir pris Naples, il passait en Grèce comme il en avait l'intention. Ces mots furent dits avec une telle dignité et en même temps une douceur si grande que le roi de France tendit loyalement et franchement la main au jeune sultan comme un compagnon d'armes. Puis, cette remise faite, Charles VIII prit une dernière fois congé du pape et descendit sur la place. Là, il attendit le cardinal Valentin qui, ainsi que nous l'avons dit, devait l'accompagner comme otage et qui était resté en arrière pour échanger quelques paroles avec son père. Au bout d'un instant, César Borgia parut, monté sur une mule splendidement harnachée et faisant conduire derrière lui 6 chevaux magnifiques dont le Saint-Père faisait don au roi de France. Charles VIII monta aussitôt sur l'un d'eux pour faire honneur au pape du cadeau qu'il venait de lui faire et, quittant Rome avec le reste de ses troupes, il s'achemina vers Marino où il arriva le même soir. Là, il apprit qu'Alphonse, mentant à sa réputation d'habile politique et de grand général, venait de s'embarquer avec tous ses trésors sur une flottille de 4 galères, laissant le soin de la guerre et le gouvernement de son royaume à son fils Ferdinand. Ainsi, tout secondait la marche triomphante de Charles VIII. Les portes des villes s'ouvraient seules à son approche, ses ennemis fuyaient sans l'attendre et avant d'avoir livré une seule bataille, il avait déjà acquis le surnom de conquérant. Le lendemain, au point du jour, l'armée se remit en route et, après avoir marché toute la journée, s'arrêta le soir à Velletri. Là, le roi, qui avait chevauché depuis le matin, accompagné du cardinal Valentin et de Jem, déposa le premier à son logement et, emmenant le second avec lui, se rendit au sien. Alors César Borgia, qui avait parmi les bagages de l'armée 20 fourgons pesamment chargés, fit ouvrir un de ses fourgons et en tira un buffet magnifique avec la vaisselle d'argent nécessaire à sa table et, comme il l'avait déjà fait la veille, ordonna de préparer son souper. Pendant ce temps, la nuit étant venue, il s'enferma dans une chambre retirée et, dépouillant son costume de cardinal, il revêtit un habit de palefrenier. Grâce à ce déguisement, il sortit de la maison qui lui avait été assignée pour son logement sans être reconnu, traversa les rues, franchit les portes et gagna la campagne. À une demi-lieue de la ville à peu près, un domestique l'attendait avec 2 chevaux de course. César, qui était un excellent cavalier, sauta en selle et lui et son compagnon, au grand galop de leur monture, reprirent le chemin de Rome où ils arrivèrent au point du jour. César descendit chez M. Florès, auditeur de la rote, où il se fit amener un cheval frais et apporter des habits convenables. Puis, immédiatement, il se rendit chez sa mère, qui jeta un cri de joie en l'apercevant, car, muet et mystérieux pour tout le monde et même pour elle, le cardinal n'avait rien dit de son prochain retour à Rome. Ce cri de joie qu'avait poussé la Vanoze en revoyant son fils était bien moins un cri d'amour que de vengeance. Un soir, pendant que tout était fait au Vatican, tandis que Charles VIII et Alexandre VI se juraient une amitié que ni l'un ni l'autre n'avait dans le cœur et échangeaient des serments qui d'avance étaient déjà trahis, un messager était arrivé de la part de Vanoze, apportant à César une lettre par laquelle elle le priait de passer sans retard à sa maison de la rue Della Longare. César avait interrogé le messager, mais celui-ci lui avait répondu qu'il n'avait rien à lui dire et qu'il apprendrait tout ce qu'il désirait savoir de la bouche même de sa mère. Aussi, à peine libre, César, vêtu d'un habit de laïque et enveloppé d'un large manteau, avait-il quitté le Vatican et s'était-il acheminé vers l'église de Regina Celi, dans le voisinage de laquelle, nous avons dit, on doit se le rappeler, qu'était située la maison qu'abritait la maîtresse du pape. En approchant de chez sa mère, César commença de remarquer des signes de dévastation étranges. La rue était jonchée de débris de meubles et de lambeaux d'étoffes précieuses. En arrivant au bas du petit perron qui conduisait à la porte d'entrée, il vit que les fenêtres étaient brisées et que des restes de rideaux flottaient, déchirés, devant elles. De sorte que, ne comprenant rien à ce désordre, il s'était élancé dans l'intérieur, avait parcouru plusieurs appartements déserts et délabrés, puis, enfin, voyant de la lumière dans une chambre, il y était entré et y avait trouvé sa mère, assise sur les débris d'un coffre d'ébène, tout incrusté d'ivoire et d'argent. En apercevant César, elle se leva, pâle, les cheveux épars, et, lui montrant de la main la désolation qui l'entourait, « Vois, César, lui dit-elle, voici l'ouvrage de tes nouveaux amis. » « Qu'y a-t-il donc, ma mère ? » demanda le cardinal. « Et d'où vient ce désordre qui vous entoure ?»« Il y a, » répondit la Vanoze en grinçant des dents de rage, « que le serpent que vous avez réchauffé vienne me mordre, craignant sans doute de se briser les dents sur vous. »« Qui a fait cela ? » s'écria César. « Dites-le-moi, ma mère, et par le ciel, je vous le jure, je le lui rendrai, et bien au-delà. »« Qui a fait cela ? » reprit Vanoze. Le roi Charles VIII, par les mains de ses fidèles alliés, les Suisses. On a su que Melchiori était en voyage et que par conséquent je demeurais seul ici, avec quelques misérables domestiques, et alors ils sont venus, brisant les portes comme s'ils avaient pris Rome d'assaut, et tandis que le cardinal Valentin faisait fête à leur maître, ils pillaient la maison de sa mère, l'abreuvant d'insolence et d'outrage, tel qu'on n'eût pas dû en entendre de plus grand, des Turcs et des Sarrasins. « c'est bien, ma mère, » dit César. « Soyez tranquille, le sang lavera la honte. Quant à ce que nous avons perdu, songez-y, ce n'est rien à côté de ce que nous pouvions perdre, et mon père et moi, soyez tranquille, nous vous rendrons plus qu'on ne vous a ôté. » « Ce ne sont pas des promesses que je demande, » s'écria la Vanoze, « c'est une vengeance. » « Ma mère, » dit le cardinal, « vous serez vengée ou je perdrai le nom de votre fils. » Et, ayant rassuré sa mère par ses paroles, il emmena au palais de Lucrèce, qui se trouvait libre par son mariage avec le seigneur de Pesaro, et rentra au Vatican, donnant des ordres pour que la maison de sa mère fût remeublée plus magnifiquement qu'avant son désastre. Ses ordres avaient été ponctuellement suivis, et c'était au milieu de ce luxe nouveau, mais avec la même haine dans le cœur, que César retrouvait sa mère. De là venait le cri de joie qu'elle avait poussé en le revoyant. Le fils et la mère échangèrent seulement quelques paroles, puis César, remontant à cheval, rentra au Vatican d'où il était sorti 2 jours auparavant comme otage. Alexandre, qui était prévenu d'avance de cette fuite et qui non seulement l'avait approuvée, mais qui encore, en sa qualité de souverain pontife, avait relevé d'avance son fils du parjure qu'il allait commettre, le reçut avec joie, mais ne lui en conseilla pas moins de se cacher, Charles VIII, selon toute probabilité, ne devant point tarder à faire réclamer son otage. En effet, le lendemain, au lever du roi, on s'était aperçu de l'absence du cardinal Valentin. Et comme Charles VIII s'inquiétait de ne pas le voir paraître, il envoya savoir quelle cause l'empêchait de se rendre auprès de lui. arrivé au logement qu'avait quitté la veille César, l'envoyé apprit qu'il en était sorti vers les 9 heures du soir et n'y était point rentré depuis. Il retourna porter cette nouvelle au roi, qui se douta aussitôt qu'il s'était enfui et qui, dans le premier mouvement de sa colère, fit connaître ce parjure à toute l'armée. Les soldats, alors, se rappelèrent ces 20 fourgons si pesamment chargés et de l'un desquels le cardinal, à la vue de tous, avait fait tirer une si magnifique vaisselle d'or et d'argent, et, ne doutant pas que les autres ne renfermassent des objets aussi précieux, ils se ruèrent dessus et les mirent en pièces. Mais ils n'y trouvèrent que des pavés ou du sable, ce qui prouva au roi que cette fuite était préparée de longue main et redoubla encore sa colère contre le pape. Aussi, sans perdre de temps, envoya-t-il à Rome Mgr Philippe de Bresse, qui fut depuis duc de Savoie, avec ordre d'exprimer au Saint-Père tout son mécontentement d'une pareille conduite à son égard. Mais le pape répondit qu'il ignorait complètement l'évasion de son fils et en exprimait ses regrets bien sincères à sa majesté, ne sachant point où il pouvait être et affirmant en tout cas qu'il n'était point à Rome. En effet, cette fois, le pape disait vrai. César s'était retiré avec le cardinal Orsino dans une de ses terres où il se tenait momentanément caché. Cette réponse fut portée à Charles VIII par 2 messagers que le pape lui envoya et qui étaient les évêques de Nepi et de Soutri. Le peuple, de son côté, députa un ambassadeur au roi. Cet ambassadeur était Mgr Porcari, doyen de la Rote, lequel était chargé de lui exprimer tout le déplaisir que les Romains avaient ressenti en apprenant le manque de parole du cardinal. Quelque peu disposé que fût Charles VIII à se payer de paroles vides, il lui fallait faire face à des affaires plus importantes, aussi continua-t-il sans s'arrêter sa route vers Naples, où il entra le dimanche 22 février de l'année 1495. 4 jours après, le malheureux Jem, qui était tombé malade à Capoue, mourut au Château-Neuf. En se séparant de lui et dans le banquet d'adieu, Alexandre VI avait fait sur lui l'essai de ce poison, dont il comptait par la suite faire un si fréquent usage sur les cardinaux, et dont il devait, par un juste retour, éprouver enfin l'effet lui-même. Ainsi, le pape s'était arrangé pour toucher des 2 mains, et, dans sa double spéculation sur ce malheureux jeune homme, il avait à la fois vendu sa vie 120 000 livres à Charles VIII et sa mort 300 000 ducats à Bajazet. Seulement, il y eut retard dans le second paiement, car l'empereur des Turcs, comme on s'en souvient, ne devait remettre l'or fratricide qu'en échange du cadavre, et le cadavre, par ordre de Charles VIII, avait été enterré à Gaète. Lorsque César Borgia apprit ces nouvelles, il estima avec raison que le roi de France, occupé à s'installer dans sa nouvelle capitale, avait à penser à trop de choses pour s'inquiéter de lui. En conséquence, il reparut à Rome et, pressé de tenir à sa mère la parole qu'il lui avait donnée, il y signala son retour par sa vengeance. Le cardinal Valentin avait à sa solde un Espagnol dont il avait fait le chef de ses bravi. C'était un homme de 35 à 40 ans dont la vie entière n'avait été qu'une longue rébellion contre toutes les lois de la société, ne reculant devant aucune action pourvu qu'elle lui fût payée le prix qu'elle valait. Don Michel Corellia, qui se fit une sanglante célébrité sous le nom de Michelotto, était bien l'homme qu'il fallait à César. Aussi, de même que Michelotto avait pour César un dévouement sans bornes, César avait en Michelotto une confiance sans limite. Ce fut lui que le cardinal chargea d'une partie de sa vengeance. Quant à l'autre, il se la réserva à lui-même. Don Michel reçut l'ordre de parcourir la campagne de Rome et d'égorger tous les Français qu'il y rencontrerait. Il se mit aussitôt à l'œuvre et quelques jours s'étaient à peine écoulés qu'il avait déjà obtenu les résultats les plus satisfaisants. Plus de 100 personnes avaient été pillées et assassinées et parmi ces dernières était le fils du cardinal de Saint-Malo qui s'en retournait en France et sur lequel Michelotto trouva une somme de 3 000 écus. De son côté, César s'était réservé les Suisses, car c'étaient les Suisses particulièrement qui avaient dévasté la maison de la Venosa. Le pape avait à son service à peu près 150 soldats de cette nation qui avaient fait venir leurs familles à Rome et s'étaient enrichis tant de leur paix qu'en exerçant quelque autre industrie. Le cardinal leur fit donner à tous leur congé, avec ordre de quitter Rome dans les 24 heures et les États romains dans 3 jours. Les pauvres diables, pour obéir à l'ordre reçu, s'étaient tous réunis, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bagages, sur la place Saint-Pierre, quand tout à coup, le cardinal Valentin les fit envelopper de tous côtés par 2000 Espagnols, qui commencèrent à tirer sur eux avec des arquebuses et à les charger à coups de sabre, tandis que César et sa mère regardaient le carnage d'une fenêtre. Ils en tuèrent ainsi 50 ou 60 à peu près. Mais les autres, s'étant réunis, firent tête aux assassins et, sans se laisser entamer, battirent en retraite jusqu'à une maison où ils se fortifièrent et se défendirent si vaillamment qu'ils donnèrent le temps au pape, qui ignorait quel était l'auteur de cette boucherie, d'envoyer le capitaine de sa garde qui, avec l'aide d'un fort détachement qu'il avait amené, parvint à les faire sortir de la ville au nombre de 40 à peu près. Le reste avait été massacré sur la place ou avait été tué dans la maison. Mais ce n'était point là une vengeance véritable, car elle n'atteignait point Charles VIII, le véritable et seul auteur de toutes les tribulations qu'avaient depuis un an éprouvées le pape et sa famille. Aussi César abandonna-t-il bientôt ses machinations vulgaires pour s'occuper de plus hauts intérêts et s'adonna-t-il de toute la force de son génie à renouer la ligue des princes italiens, rompue par la défection de Sforza, par l'exil de Pierre et par la défaite d'Alphonse. Cette entreprise s'accomplit avec plus de facilité que le pape ne s'y était attendu. Les Vénitiens n'avaient pas vu sans inquiétude Charles VIII passer si près d'eux, et ils tremblaient que, maître une fois de Naples, il n'eût l'idée de conquérir le reste de l'Italie. De son côté, Ludovic Sforza commençait à craindre, en voyant la rapidité avec laquelle le roi de France avait détrôné la maison d'Aragon, qu'il ne fît bientôt plus de différence entre ses alliés et ses ennemis. Maximilien, à son tour, ne cherchait qu'une occasion de rompre la paix momentanée qu'il avait accordée à force de concessions. Enfin, Ferdinand et Isabelle étaient alliés à la maison détrônée. De sorte que tous, ayant, quoiqu'avec des intérêts différents, une crainte commune, furent bientôt d'accord sur la nécessité de chasser Charles VIII, non seulement de Naples, mais encore de l'Italie, et s'engagèrent par tous les moyens qui seraient en leur pouvoir, soit par négociation, soit par surprise, soit par force, à contribuer à cette expulsion. Les Florentins seuls refusèrent de prendre part à cette levée de boucliers, et restèrent fidèles à la parole donnée. D'après les articles arrêtés entre les confédérés, l'alliance devait durer 25 ans et avait pour but ostensible de défendre la majesté du pontife romain et les intérêts de la chrétienté. De sorte que l'on aurait pu prendre ces préparatifs pour ceux d'une croisade contre les Turcs si l'ambassadeur de Bajazet n'avait pas constamment assisté à toutes les délibérations, quoique par pudeur, les princes chrétiens n'osassent point admettre en nom dans la Ligue l'empereur de Constantinople. Au reste, les confédérés devaient mettre sur pied une armée de 34 000 chevaux et de 20 000 fantassins, et chacun s'était taxé pour un contingent. De sorte que le pape était tenu de fournir 4 000 chevaux, Maximilien 6 000, le roi d'Espagne, le duc de Milan et la République de Venise, chacun 8 000. Chaque confédéré devait en outre lever et équiper dans les 6 semaines de la signature du traité 4 000 fantassins. Les flottes seraient fournies par les États maritimes, mais les frais qu'elles auraient occasionnés seraient également répartis sur tous. Cette ligue fut publiée le 12 avril 1495, jour du dimanche des Rameaux, dans tous les États d'Italie, et particulièrement à Rome, au milieu de fêtes et de réjouissances infinies. Presque aussitôt la publication de ces articles ostensibles, les confédérés commencèrent à mettre à exécution les articles secrets. Ces articles obligeaient Fernand et Isabelle à envoyer à Ischia, où le fils d'Alphonse s'était retiré, une flotte de 60 galères portant 600 cavaliers et 5 000 fantassins pour l'aider à remonter sur le trône. Ces troupes devaient être mises sous le commandement de Gonsalve de Cordoue, à qui la prise de Grenade venait de donner la réputation du premier général de l'Europe. De leur côté, les Vénitiens devaient attaquer, avec une flotte de 40 galères, sous les ordres d'Antonio Grimani, tous les établissements que les Français auraient sur les côtes de la Calabre et de Naples. Quant au duc de Milan, il s'engageait à arrêter tous les secours qui viendraient de France et à chasser le duc d'Orléans et d'Asti. Restait Maximilien, qui s'était engagé à envahir les frontières de France, et Bajazet, qui devait aider de son argent, de sa flotte et de ses soldats, tantôt les Vénitiens, tantôt les Espagnols, selon qu'ils seraient appelés par Barberigue ou par Ferdinand le catholique.